Le soleil du désastre s'est levé à l'Occident, embrassant les hommes et les terres peuplées. La calamité chrétienne s'est abattue sur nous, comme un nuage de poussière. Au commencement, ils arrivèrent, pacifiquement, avec des propos tendres et suaves. « Nous venons commercer, disaient-ils, réformer les croyances des hommes, chasser d'ici-bas l'oppression et le vol, vaincre et balayer la corruption. Nous n'avons pas tout perçu, leurs intentions, et maintenant nous voilà leurs inférieurs. » Ils nous ont séduits à coups de petits cadeaux. Ils nous ont pourri de bonnes choses. Mais ils viennent de changer de ton.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas?
D'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les yeux grands ouverts sur Radio Canus 102.2 FM à Lyon. Donc le petit poème que je viens de vous lire, c'est l'œuvre du poète El Ar Omar qui a vécu au nord du Ghana, témoin et victime de la colonisation. Il a donc écrit un poème afin de dénoncer la brutalité des colonisateurs. Il est cité et traduit par Jacques Bouillon. Interprétons ça plus clairement. Donc, au vers 2, il parle de la calamité chrétienne. C'est une métaphore en fait pour critiquer les colonisateurs qui étaient venus dans le but d'étendre leur religion. Au vers 6, il parle de pacifiquement en appuyant bien dessus pour mettre en valeur le fait que les colonisateurs étaient tout d'abord arrivés en paix. Après, ensuite, le discours indirect des vers 6 et 11 justifie la venue des colonisateurs, quand il parle de nous venons commercer, etc. etc. Il les fait parler en faisant croire qu'ils viennent que pour de bonnes actions. Le discours contraste avec leurs réelles intentions, bien entendu. Les colonisateurs jugent ce peuple inférieur, le poète le souligne au vers 13, quand il dit « Et maintenant, nous voilà leurs inférieurs ». Les vers 14 et 15 expliquent les premières intentions, les Européens, à savoir leur donner des cadeaux, les nourrir de bonnes choses. Cependant, la conjonction de coordination mai du dernier vers montre le renversement de situation. Ce dernier vers contredit toutes les premières intentions des colonisateurs et signifie donc qu'ils ont fini par devenir brutaux. Donc, comme je vous disais, bonjour et merci d'être avec nous dans cette première émission des Yeux Grands Ouverts, une émission d'infos et de débats en tout genre. Alors, pourquoi ce nom, direz-vous ? Tout simplement, pour ce qu'il a de plus simple, c'est un conseil et en même temps un objectif, regarder et observer, constater ce qui se déroule au quotidien autour de nous, mais aussi ce qui s'est passé et peut-être ce qui se passera, évidemment. On scrutera tout ça avec notre œil à nous. Les yeux grands ouverts, signifie aussi qu'il faut toujours rester curieux. Pour commencer, je vais tenter de vous expliquer un peu le concept de l'émission, de cette modeste contribution radiophonique. Ce sera tout d'abord de refaire le monde, de le regarder, de l'observer à travers nos lunettes, nos prismes à nous. Quand je dis nous ou on, ce sera en l'occurrence les diverses personnes qui ont l'amabilité de m'épauler en fonction des sujets, de m'apporter leur savoir ou leur point de vue. Ou lorsque ce ne sera pas possible, je m'attellerai à cette tâche dans la plus grande solitude, mais avec vous, derrière vos petits transistors, ou alors continuons à dire que nous faisons cette émission ensemble, puisque vous faites aussi un peu partie de cette émission avec moi. Nous essayerons de traiter ces sujets avec du fond, évidemment, des points de vue différents de ceux proposés dans les médias plus traditionnels, d'où l'intérêt d'émettre sur le Radio Canu. Mais on essayera aussi de travailler cette matière en y ajoutant des petits traits d'esprit, voire même de l'humour quand ce sera possible, si on est assez doué pour ça, même si on sait que c'est parfois difficile de faire preuve de ce talent, parce que ça peut heurter les sensibilités. On va essayer, sans rien promettre, de s'amuser pour amuser et informer tout le monde. Donc pour mettre ça en œuvre, on décidera lors de chaque émission d'un thème précis, qui soit en rapport ou non avec l'actualité. Il pourra s'inspirer de faits historiques, politiques, sociétaux, culturels, ou même totalement anecdotique. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment envie de nous imposer des limites, même au niveau thématique. Donc pour ma part, je me présente, moi c'est Rémi, je serai votre hôte, soit seul ou accompagné d'une ou plusieurs personnes. Alors pour cette émission, alors pourquoi cette émission, vous pourriez me demander ? Parce que j'ai envie de partager ce que je sais, ce qui me passionne, mais aussi de faire intervenir des gens qui auront vraisemblablement des choses à nous apprendre, d'échanger avec eux des points de vue, mais aussi parce que je suis militant et que sensibiliser tout le monde sur ce que je ressens m'a toujours plu. Mais surtout, j'aimerais donner mon point de vue et raconter ma version de l'histoire, celle que je crois la plus juste. J'aimerais aussi interviewer des gens intéressants qui me passionnent et dont je pense que l'interprétation qu'ils font du monde peut apporter des choses à tous. Mais l'envie de créer cette émission a aussi été stimulée par le souhait de réinjecter un peu de simplicité et d'optimisme dans le milieu libertaire, parfois un peu effrayé, chose qu'on peut comprendre avec la tournure que prend les choses en ce moment. Parlons, n'ayons pas peur d'être en désaccord, d'émettre des nouvelles idées, mais surtout essayons de comprendre pourquoi on en est venu ici aujourd'hui, et aussi que peut-on faire pour faire bouger les lignes. Alors pour ce qui est de la forme que prendra cette émission, elle sera bien évidemment très aléatoire en fonction des sujets qui seront traités. Il pourra s'agir de monologues, où je raconterai une histoire, où j'expliquerai des situations politiques ou diverses histoires, ou même de la poésie, pourquoi pas. Bien entendu, tout ça sera filtré par ma subjectivité. On pourra également y voir des interviews de personnes qui m'intéressent et dont j'aimerais vous faire savoir le point de vue, expert ou non dans un domaine. Nous pourrons également être tout simplement deux à développer un sujet lorsque cela sera possible, ou pourquoi pas plus, peut-être, on verra. J'apporterai des petits documents audio si les circonstances le nécessitent pour illustrer ce que je raconte. Ces documents pourraient être très divers, des interviews menées en micro-trottoir ou ailleurs. Enfin, je dis micro-trottoir, mais j'aime pas du tout ce terme en fait. Quand je pourrais interviewer des gens dans n'importe quel endroit, sur leur lieu de travail, etc. Mais aussi des petites scénettes qui pourront illustrer un peu ce qu'on racontera. Ou comme je disais tout à l'heure, de la poésie, des textes littéraires, peu importe. Lors de chaque émission, je vous déclamerai lors de quelques petites minutes mon humeur du moment dans ce qu'on appellera un torchon. Et puis bien entendu, je diffuserai de la musique, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui est en rapport avec le sujet et aussi des groupes du coin, dans la mesure du possible. Tout cela en fonction des personnes qui m'accompagneront. Enfin, vous verrez bien quoi. Il y aura de l'amour, de la décadence et puis au passage, un petit peu d'infos. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la colonisation. On est toujours sur Radio Canus en 2.2. Et donc, avant de parler de colonisation, ce qui est quand même pas mal, c'est de resituer tout ça historiquement. Déjà, la colonisation, le mot en lui-même, qu'est-ce que c'est ? Donc, la colonisation, c'est un processus d'expansion territoriale qui se caractérise par des flux migratoires, l'invasion, l'occupation et l'exploitation d'un espace géographique, la mise sous tutelle et la domination politique, culturelle, religieuse et économique, voire ça peut aller jusqu'au génocide de certaines populations qui sont établies au préalable sur les territoires. La colonisation est à différencier du colonialisme, lequel est plus une doctrine politique et idéologique qui est pratiquée par un État sur d'autres territoires, où on les contraint à accepter en fait un lien de dépendance avec un autre pays. Donc lorsqu'il y a domination politique du territoire et assujettissement de ses habitants, on parle alors d'impérialisme de la part du centre politique de décision qu'on appelle métropole. La colonisation peut avoir pour but l'exploitation d'avantages réels ou supposés, donc ça peut être la matière première, la main d'œuvre, des positions stratégiques, d'un territoire aussi au profit de sa métropole ou de ses colons, et peut avoir aussi pour prétexte des notions floues telles que le développement de la civilisation ou la mission civilisatrice. C'est toujours facile d'essayer de trouver des excuses pour massacrer des gens. La colonisation se différencie d'une simple occupation politique d'un territoire car elle revêt une dimension économique, religieuse ou idéologique. La colonisation se distingue de l'annexion parce qu'il y a une différence de traitement qui est établie dans la colonisation, parce que dans la colonisation, on ne traite pas les autochtones présents déjà sur les territoires de la même manière que dans une annexion. Dans une annexion, on les traite à égal avec tous les citoyens de l'empire qui colonise, alors que dans la colonisation, ils ont un statut qui est différent. Alors, dans l'histoire, le colonialisme a été mené par tout type de peuple, d'État ou d'empire depuis la nuit des temps. On peut remonter à l'Antiquité ou même à Rome. Les Vikings aussi, les peuples arabes, les Maures aussi, les Maures M-A-U-R-E bien sûr, qui ont tous pour diverses prétendues raisons tenté d'agrandir leur territoire afin de s'y approprier les richesses et d'y répandre leur religion ou leur mode de pensée. Donc aujourd'hui, quand certains parlent de néocolonialisme au sujet des diverses interventions militaires américaines ou même françaises d'ailleurs en Afrique, pour le prétendu bienfait des démocraties ou d'autres choses, on n'est pas du tout éloigné de ce genre de concept. Mais pour être plus succinct, on va essayer de se contenter de l'histoire plus récente de cette colonisation, celle qui a débuté sous l'ère des nations occidentales telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et comme elles furent déterminées, voilà. Donc tout ce qui a assis un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle le traité de Westphalie, enfin ce qu'on a appelé. Ce traité, il dessine les contours juridiques de ce qu'est un État et ses limites géographiques. À l'époque, on dit que l'occupation est un mode légal d'acquisition de territoire sans maître, signifiant que le seul fait d'avoir pris possession peut conférer des droits sur le territoire. Cette doctrine favorisant la propriété de la découverte est ensuite complétée par une jurisprudence internationale, puis plus tard consacrée par ce fameux traité de Westphalie dont je vous parlais, sur la définition de l'État. Accessoirement, cette souveraineté s'étend non seulement au territoire, au peuple qui y vit, mais aussi à ses zones maritimes. Par conséquent, les territoires non constitués sous forme d'État sont considérés sans maître, libres d'être annexés, et tout territoire dépendant d'un État ne possède aucune personnalité juridique distincte de cet État. En gros, pour le traité de Westphalie, un territoire sur la terre, c'est un État ou ce n'est rien. Et si ce n'est rien, eh ben, il peut être récupéré par n'importe quel État déjà constitué. Donc ce colonialisme moderne, il se divise en deux grandes distinguables parties chronologiquement, a fortiori pour la France. Ça commence au XVe siècle avec la colonisation des Indes et des Antilles, de l'Asie aussi. Mais ces colonies se développent exponentiellement suite aux nouvelles découvertes en Amérique, c'est de ce dont je parlais, les Antilles. Donc il y a de nouvelles richesses dans ce nouveau monde, donc on veut se les approprier. À titre d'exemple, il s'agit donc de l'annexion des territoires d'outre-mer, comme je disais, je me répète un peu, excusez-moi, mais aussi à l'époque de l'Amérique du Nord, puisque pendant des années la France a eu des colonies là-bas aussi, dans les coins notamment du Canada, mais aussi au Québec, et même aux États-Unis. Ces conquêtes ont été pour la plupart perdues ou parfois cédées, comme la Louisiane qui a été vendue après coup par Napoléon XI américain, sauf bien entendu les Dom et les Don qui restent aujourd'hui contrôlés par la France. Ces conquêtes étaient faites sous le prétexte de répandre la foi chrétienne, mais c'était aussi l'accaparement des richesses dites exotiques, comme le café, le sucre, etc. Comme les colons français étaient relativement peu nombreux sur ces îles pour y travailler, eh bien on envoyait des esclaves africains pour travailler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de populations noires dans ces coins. Cette colonisation se stoppe suite aux défaites puis au traité de Paris les entérinant. Durant la Révolution, l'esclavage étant aboli, suivant le principe d'égalité, les colonies stagnent, hein, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements, comme vous le savez très bien, pendant la Révolution française. Puis l'Empire napoléonien rétablit l'esclavage et s'occupe d'étendre l'Empire en Europe, laissant par conséquent les conquêtes à travers le monde un peu de côté, c'était plus la priorité. Une fois ce moment charnière de la Révolution française passé, puis la chute de l'Empire, démarre ce qu'on pourrait appeler le Second Empire colonial français. Il s'agit de la colonisation de l'Algérie à partir de 1830, qui est lancée par Charles X. Mais l'agrandissement de l'Empire colonial français est surtout le fait de la Troisième République. Suite aux défaites face à la Prusse, des gens comme Jules Ferry poussent à entamer de vraies campagnes pour redorer le blason de la France. Jules Ferry, personnage qui est aujourd'hui célébré par les castes comme un humaniste, le père de l'école publique, etc., un exemple, ce qui incite à la prudence quant aux hommages qu'on peut entendre rendus à certains personnages. Pour exemple, je vous j'ai ramené une petite citation de Jules Ferry de l'époque, donc qui certainement devait s'exprimer dans l'Assemblée nationale à ce moment-là. Il parle à une personne qui doit être dans l'opposition. Il lui dit « Je vous défie, permettez-moi de vous porter ce défi, mon honorable collègue Monsieur Pelletan, de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. » Donc Jules Ferry va jusqu'à dire une horreur comme celle-ci. Comme quoi il faut savoir raison garder quand on écoute les hommages qui sont rendus à certains personnages aujourd'hui. Voilà qui est raisonnable, donc comme je disais. Hein. Donc ce mec s'est pas arrêté là, puisqu'il a aussi parlé au sujet des communards de hideux drapeau rouge qui déploient son haillon sanglant. Donc voilà. Cet homme sera l'un des grands défenseurs de la colonisation, ce qui va finir par causer sa perte, puisque suite à la crise du Tonkin, on l'a accusé de lui et quelques politiciens pro-colonialistes d'avoir envoyé des pauvres gens au casse-pipe pour rien, et ça finira par lui coûter sa place. L'empire colonial grandit toujours, c'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale qu'il est à son apogée, puisqu'à ce moment-là, il est équivalent environ à un dixième de la surface mondiale. Et c'est pourtant seulement le deuxième empire colonial qui existe sur Terre, puisque c'est l'empire britannique qui a la première place, puisqu'il va aller jusqu'à asservir un quart de la population mondiale, ce qui est quand même incroyable. Voilà, pour l'instant, on a survolé l'histoire française de ce phénomène, mais après une petite pause musicale, on va s'attarder sur le colonialisme en Afrique, et surtout sur la manière dont celui-ci s'est déroulé, car lorsqu'on parle d'appropriation de territoire, c'est déjà infâme, mais on sait tous que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque en plus de tout ça, les choses se mettaient en place sur le terrain, on peut le dire de manière complètement dégueulasse, puisqu'on n'arrivait pas juste là-bas en demandant « Excusez-nous, est-ce qu'on peut s'installer ici ?» C'est qu'en même temps, on faisait des horreurs. Donc maintenant, je vais vous passer un petit morceau des camarades de Crève-Cœur, c'est un groupe de rocksteady de Lyon, et voilà.
Encore à nous réduire, à nous soumettre à ton empire. Mais on a la tête dure, on est paré pour l'aventure. Oui, on a la tête dure. Depuis nos morsures de jeunesse, on tire sans cesse sur nos laisses. Rien que serrer les dents et voir venir et allumer des feux parfois juste pour le plaisir et allumer des feux de joie. On affiche la couleur sans mêler ouais sans rancœur, insurgé de l'intérieur condamné au crève-cœur. Allez les gars, we'll
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2 FM à Lyon, dans l'émission Les yeux grands ouverts. Le thème de la journée, c'est toujours la colonisation, enfin de la soirée du moins. On va donc rentrer un peu plus dans les détails de la manière dont se sont déroulées les choses en Afrique. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le commerce existait déjà entre les nations occidentales et les pays africains. Les Africains n'étaient pas totalement perdus, ils n'étaient pas non plus... sans civilisation ni rien, ils étaient capables de commercer. Les pays africains donc développaient à l'époque ce qu'on appelait les comptoirs du commerce. Mais dans la fin du 19e siècle, les puissances européennes ont décidé d'approfondir la colonisation en s'appropriant les terres parce qu'ils se sont tout simplement rendu compte qu'il y avait beaucoup de richesses comme le diamant, le cuivre et l'or et qu'ils en voulaient toujours plus, qu'ils voulaient vraiment mettre la main dessus et tout contrôler. Donc suite à cela, quelques soubresauts entre les puissances les obligent à établir des règles pour l'établissement de ces colonies, chose qui sera faite durant la conférence de Berlin qui se déroule entre novembre 1884 et février 1885, à laquelle participent les principaux États européens qui colonisent. Ils finissent par rédiger un acte final. Celui-ci, après avoir défini le bassin du Congo, établit l'obligation de respecter le libre-échange pour toute puissance colonisatrice, même en cas de guerre. Il définit les conditions à remplir pour l'occupation effective des côtes et elle seule, implantation du pavillon, autorité suffisante et notification diplomatique. En gros, ça établit les règles pour avoir le droit de dire à quel endroit c'est à moi et à quel endroit ça l'est pas. Le libre-échange à tout prix, comme quoi les choses, elles ont pas totalement évolué. On sait que le libre-échange, aujourd'hui, est souvent à la source de la tyrannie ou de la destruction dans certains endroits appauvris. Pour illustrer l'état d'esprit des responsables politiques de l'époque, donc je vais vous citer le Premier ministre britannique qui disait « Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières, des lacs, gênés uniquement par le fait que nous ne savions pas exactement où c'était. » Donc on voit vraiment qu'à l'époque ils se sont amusés avec une carte et un territoire. On peut le voir notamment quand on scrute un peu la carte de l'Afrique aujourd'hui, quand on voit les frontières qui sont tracées entre les pays, on voit qu'il y a une bonne partie des frontières qui ont été tracées à la règle. C'est que ça fait un peu comme sur la carte des États-Unis d'Amérique, les lignes sont toutes droites. C'est pas comme les frontières en Europe où c'est tout vallonné à cause des montagnes. Donc ce partage était déjà tellement honteux en lui-même, mais on arrivait à des mises en abîme dans l'absurdité, puisque à titre d'exemple, au Sénégal, qui devenait donc à ce moment-là une colonie française, les Anglais ont insisté pour garder possession du fleuve la Gambie, alors que ce dernier traversait le pays en plein milieu, ce qui a eu pour conséquence de diviser les populations qui vivaient de part et d'autre du cours d'eau. Et ça a créé un pays qui fait toujours d'ailleurs, puisque ce pays existe toujours, 450 km de long et un maximum de 45 km de large. Ce qui est totalement stupide. En fait, il y a une frontière qui suit le fleuve le long du Sénégal. Donc, comme je disais, ça existe toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, les marqueurs d'opinion et les mœurs n'étaient pas du tout les mêmes. Mais cependant, comme aujourd'hui, il fallait justifier ce type d'action. Alors à l'époque, on tentait de faire croire par différents biais que l'homme noir était inférieur. Je vous rapportais tout à l'heure les citations de Jules Ferry qui parlait de race inférieure pour justifier le fait qu'on colonise. Mais il y en avait bien d'autres. On parlait en ce temps-là au sujet des Africains de faibles enfants ou encore de paresseux sauvages. Mais d'autres moyens de propagande étaient utilisés plus sournois et difficilement perceptibles pour le commun des mortels, comme la chanson ou même les produits vendus. On a tous souvenir du produit du cacao qui existe encore aussi, mais le slogan à l'époque c'était « Yabon Banania » pour ce cacao. Et à ce titre, je vais vous diffuser un micro-document sur les chansons pro-coloniales où l'historien Alain Russio en dénonce l'utilisation et les relents racistes. C'est un document qui est issu du journal télévisé de France 3, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans la télé publique. Donc je vous lance ce petit document.
On termine ce journal avec une anthologie signée d'un historien qui s'est attaché à montrer que la France coloniale a produit des textes qui, sous des abords bon enfant, étaient souvent racistes. Le reportage de Gabriel Lorne et Jean-Pierre Magnaudet.
Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale.
C'était à sa sortie en 1931, cette chanson, Nénuphar, a connu un grand succès populaire. Pourtant, elle est le prototype de la chanson raciste, désignant les Noirs comme de grands enfants congénitalement bêtes. Dans son anthologie de la chanson coloniale et exotique, l'historien Alain Russio a exhumé plusieurs centaines de titres du même acabit. Alain Rousseau souligne qu'à partir des conquêtes françaises du début du 19e siècle, un racisme débridé a été mis en musique pour accompagner la politique coloniale et les campagnes militaires.
Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire.
Je pense qu'il y a eu une volonté délibérée de ce que j'appelle, enfin avec d'autres historiens d'ailleurs, ce que j'appelle le parti colonial, le lobby colonial, cette volonté délibérée un petit peu d'imprégner dans la tête de chaque Français le bien fondé de la colonisation. Donc, comment faisait-on ? On cherchait les moyens les plus populaires et la chanson en était un.
Alain Rousseau fait remonter à l'époque des Croisades les premières chansons françaises hostiles à toute civilisation différente. Jusqu'aux années 50, des airs de rumba, de cha-cha ont accompagné des textes ouvertement racistes. Les plus belles plumes, les plus belles voix ont créé ces chansons teintées tour à tour de paternalisme, de mépris, de doudouisme et de comique.
C'était une noire, une merveille, j'avais aussi la peau bronzée.
C'est pas par hasard qu'on retrouve dans la même anthologie Edith Piaf, Maurice Chevalier, Fernandel, Bourvil, vous avez parlé de Sardou, Mayol pour les générations plus anciennes, etc. Tous ces chanteurs-là, Joséphine Baker qui a énormément contribué, tous ces chanteurs-là ont véhiculé des idées, encore une fois à leur insu, ça c'est un autre problème.
La chanson aura donc été le vecteur d'une idéologie raciste, insidieusement installée dans l'air du temps, peu dénoncée, peu critiquée. Quant aux traces laissées dans les mémoires par ces ritournelles apparemment candides, Alain Rousseau les estime profondes et lentes à disparaître.
Voilà pour ce petit document sur les chansons racistes et la colonisation à l'époque. C'est quand même assez significatif. On se demande à long terme quel genre d'effet ça peut avoir, ce genre de musique et de petites ritournelles, comme il est dit dans le document. Donc on va reprendre là où on en était. C'est difficile donc de déterminer ses conséquences à long terme, comme je disais. On sait de toute façon que depuis toujours, les grands empires coloniaux ou même n'importe quel type d'empire essayent toujours d'étendre sa culture et d'utiliser des moyens de propagande pour favoriser ses idéologies. C'est même encore le cas aujourd'hui, même si c'est pas vraiment le sujet. On pourrait parler de ce qui s'est passé avec les Américains dans les années 80. Quand on regarde des films comme Rocky, je sais plus si c'est le 3 ou si c'est le 4, où on voit Drago et Rocky Balboa, je vous assure, quand on regarde ce genre de film, on n'a pas tellement envie d'être russe, on préfère être américain. Parlons maintenant un peu donc de la manière dont se déroulaient ces conquêtes. Pour cela, on va citer un petit exemple, c'est celui du peuple Ashanti qui est aujourd'hui dans le Ghana. Depuis le milieu du 19e siècle, les Ashanti résistaient aux Anglais, mais ils finissaient par en avoir assez et voulaient la paix. En 1895, le roi Prempeh, depuis son palais de Komazi, ayant peur de déclencher une guerre, finit par leur accorder des droits d'implanter des entreprises, notamment une entreprise en pays Ashanti, une entreprise dotée de toutes les concessions et de tous les privilèges. Mais les attaques des Britanniques continuèrent, puisqu'on leur en aura donné un petit peu, mais ils en voulaient encore plus. Donc en 1896, ils décidèrent de se rendre, les Ashanti craquaient complètement. Au cours du cérémonial succédant la victoire anglaise, le roi Ashanti fut obligé à lécher les bottes du roi britannique puis fut exilé. À son arrivée, le gouverneur Sir Frederick Hudson demanda qu'on lui remette le trône d'or sacré qui est le symbole de la nation Ashanti. Et il a poussé le vice jusqu'à aller s'asseoir dessus alors qu'il savait très bien que même le roi Ashanti n'en avait pas le droit, ce qui a fini par engendrer une nouvelle révolte. Malheureusement, cette révolte n'a mené à rien, disons à court terme. Toutes ces guerres faisaient évidemment beaucoup de victimes du côté occidental. Les victimes elles faisaient évidemment beaucoup de victimes, je voulais dire virgule, du côté occidental, mais aussi surtout victimes du côté des colonisés. Du côté occidental, il y avait des victimes qui étaient surtout dues en fait aux épidémies, parce que comme on connaissait pas bien les faunes et les flores des endroits comme cela, on maîtrisait pas du tout les virus qui pouvaient être contractés par les soldats. Après, les combats étaient totalement déloyaux, bien entendu, puisqu'il y avait d'un côté des fusils et des mitraillettes et de l'autre des lances et des flèches. Les colons appelaient la répression qui les exécutait envers les rebelles la pacification. C'est une espèce d'euphémisme pour faire croire que on essaye de rendre serein les endroits, alors qu'en fait, ce qu'on fait, c'est juste taper sur les gens et leur tirer dessus ou les tuer carrément. Le pire dans tout cela, c'est qu'en plus, à certains endroits, les peuples étaient plutôt accueillants à l'arrivée des colons, puis ils finissaient par se révolter en voyant qu'on leur volait tout le fruit de leur travail. D'autres méthodes étaient utilisées. Au Kenya, par exemple, pour soumettre les peuples, on les obligeait à travailler, mais il fallait trouver un moyen de les obliger à travailler. Donc les Anglais ont créé ce qu'on appelle la capitation. C'était un régime qui obligeait les Maasai à payer des impôts. Et comme ils n'avaient pas de sous pour les payer, forcément ils devaient travailler, parce que c'est comme ça qu'ils pouvaient s'y atteler. Alors, pour étayer tout ça, j'ai un petit document aussi encore que je vais vous passer tout de suite.
En 1915, près de 2 millions d'hectares de terres cultivables du Kenya central ont été distribués à près d'un millier de colons britanniques. Dans les années 1920, les nouveaux venus employaient dans leurs plantations la moitié environ des hommes valides, Kikuyu et Luo, les deux grands peuples agricoles du Kenya. Comment cela s'est-il produit? Par l'apparition d'une notion nouvelle au Kenya, les impôts. Pour cultiver tous les hectares, il fallait obliger les Africains à payer des impôts en argent comptant. Comme leur économie n'était pas une économie fondée sur la circulation monétaire, les Africains ne pouvaient payer d'impôts en espèces que s'ils travaillaient pour les Européens moyennant salaire. Un vieux Maasai se souvient.
Ils exigeaient des impôts, mais les Maasai n'en avaient jamais payé avant. Ça s'appelait la capitation. Et on devait aussi payer des impôts sur nos maisons, 2 shillings par maison.
Les Maasai s'avérèrent particulièrement astucieux pour échapper à l'impôt. Le gouvernement colonial pensa qu'on pourrait envoyer ces guerriers apparemment oisifs à l'école pour en faire, si possible, des percepteurs au sein de leur peuple. On s'empara de jeunes gens dans ce but.
Le gouvernement envoya des soldats pour enlever les enfants. J'ai été pris par les soldats dans mon village. On m'a envoyé à l'école avec 3 autres enfants.
Donc voilà ce petit document qui prouve un peu le fait de la colonisation et notamment la capitation qui allait jusqu'à imposer les Ashanti ou en l'occurrence les Kenyans sur leur futur logement, etc. Comme vous avez pu l'entendre à la fin de ce document, le Maasai qui est interviewé, j'ai dû parler des Ashanti, mais c'est les Maasai au Kenya, il parle du fait qu'on est venu l'instruire de lui et deux de ses amis afin qu'il puisse par la suite répandre les bienfaits de l'organisation de la société occidentale dans son milieu. Et bien à ce sujet, on peut parler aussi de ce qui est appelé à l'époque les administrateurs indigènes. Les euphémismes trouvés dans ces moments-là sont toujours saisissants. Ce qui n'était rien d'autre que de la corruption en fin de compte. On donnait à des administrateurs un salaire plus que confortable par rapport à tous les autres, des pouvoirs qui leur permettaient de s'enrichir sur leurs semblables également, et de cette manière les puissances gardaient le contrôle sur le peuple et étaient informées de tout. Certaines mauvaises langues comme moi oseraient même dire qu'aujourd'hui on appelle ça des dictateurs crapuleux et que ça existe encore, mais bon, comme l'euphémisme d'administrateur indigène a été démasqué, on ne peut plus l'utiliser aujourd'hui. Maintenant on va parler un peu de l'oppression du travail, dans le travail et des ressources, comment on les récupérait là-bas en Afrique. Elles étaient évidemment multiples. La principale, c'était le cacao, qui bien entendu était acheté à des prix ridicules aux producteurs, puis ensuite revendu en Europe, parfois sous des slogans racistes, comme je disais tout à l'heure, le fameux Yabon Banania. Mais par-dessus le marché, il faut repréciser que le commerce du cacao que les Africains menaient à leur envie, avant par le biais de petites sociétés d'export, a été tué par la colonisation, qui s'est contentée de transformer les natifs de ces pays en travailleurs, puisque le service était accaparé par les pays colonisateurs, notamment la vente. les petits producteurs exportateurs qui résistaient ont fini par être coulés avec la collaboration tacite des banques qui chapeautaient en fait la colonisation. Ceci en leur refusant des crédits ou en rachetant des misérables sommes pour les contrôler. On peut également parler de la situation infâme qui se déroulait dans les mines de diamants, où les conditions de travail étaient plus que lamentables. Entre 1904 et 1933, environ 30 000 morts en Rhodésie du Sud, la plupart engendrées par des maladies. En 1933, les salaires étaient plus faibles qu'au départ de la colonisation. Le système de travail dans la mine, à l'époque, était appelé le Chibaro. Il était en plein boom. Il a permis d'extraire environ l'équivalent de 87 millions de livres sterling or en 30 ans, une moyenne d'environ 20 vies africaines qui étaient ôtées par semaine pendant 30 ans. Il y aurait encore plein d'exemples comme celui-là, comme les champs de coton au Mozambique, ou encore des récoltes de caoutchouc au Congo belge, où l'on mutilait les travailleurs africains lorsque les récoltes étaient mauvaises. Donc à ce titre, je conseille à tout le monde de regarder le documentaire Africa, le grand partage, qui est visionnable sur YouTube en très mauvaise qualité. Je dois avouer, le son il est catastrophique, mais je pense que ça a dû être capté sur une VHS, donc c'est assez moyen. On n'est pas assez rentré dans les détails, mais par exemple, pour expliquer un peu ce qui se passait au Mozambique, dans les champs de coton, on faisait récolter le coton aux habitants de là-bas. C'était une ancienne colonie portugaise. On récupérait le coton, on l'emmenait au Portugal pour le faire transformer, pour faire des pulls, des draps ou tout ce que vous voulez. Et ensuite, on le ramenait aux Africains et on leur revendait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient payés des misères à travailler là-dessus. Et en plus, derrière, on leur revendait les trucs qu'ils venaient de ramasser à des prix exorbitants. Donc c'était vraiment la pire des arnaques. Je vais essayer de tirer personnellement une conclusion. Je vais donner un peu mon avis là-dessus. Donc d'aucuns ont osé dire et diront encore que la colonisation a apporté tout un tas de bonnes choses aux Africains, du genre des écoles et des hôpitaux, etc. Mais il faut surtout pas oublier que le financement de ces infrastructures, n'est pas tombé du ciel et qu'il n'est le fait que de la production de richesses produites par les Africains eux-mêmes, des impôts qu'ils ont payés, que ces services aussi ont permis aux multinationales d'utiliser la main-d'œuvre soignée et éduquée pour leur propre profit, alors même que les travailleurs finançaient tout cela eux-mêmes par leur boulot. Et même si le monde occidental leur avait légué ou partagé ne serait-ce que la plupart infime de ses vertus, c'était après y avoir perpétré des massacres, des guerres, de l'oppression physique, morale, d'un paternalisme infantilisant et dégradant à l'égard de leur dignité d'homme. Mais aussi et surtout au mépris d'un déni total de la souveraineté de leur peuple, de leur capacité qu'ils eurent de s'autodéterminer. Et s'ils ne voulaient pas de notre culture, est-ce qu'on s'est posé la question? S'ils ne voulaient pas de nos richesses et de notre travail? S'ils se fichaient de nos modes de vie, de consommation, qui étions-nous surtout pour leur imposer ce mode de vie construit au travers de nos prismes d'occidentaux bornés et obtus? Ils sont nos frères, et ils l'étaient déjà, et ce que nous avons fait était intolérable. Mais bien entendu, le plus déplorable est que tout cela n'est pas fini. 30% de notre production d'uranium, vient du Niger, et j'en passe. Giscard, qui a envahi le Tchad, Zaïre, la Mauritanie, Mitterrand, qui a fait des interventions au Tchad, au Togo, au Gabon, Hollande, en Libye ou au Mali. La fin de la France-Afrique, on est en droit de se demander quand est-ce que c'est pour quand.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont on partage le monde. Plus rien ne m'étonne. L'aluminium, si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Partager le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
C'était Tikenja Fakoli avec Plus rien ne m'étonne, chanson qui illustre, je pense, totalement l'histoire de la colonisation. Donc voilà. Alors pour finir, je vais vous faire ce qu'on pourrait appeler un petit billet d'humeur. Ce qu'on pourrait l'appeler, c'est que c'est un petit billet d'humeur qu'on surnomme le torchon. Alors pourquoi le torchon? Parce qu'on voulait pas appeler ça un billet. On trouvait que ça faisait un peu trop propre et que ça faisait genre j'essaye de m'enrichir, alors qu'un torchon ça sert à rien et ça nettoie juste la merde et en plus ça fait pas rire. Donc on trouvait plus marrant d'appeler ça un torchon. J'essaierai de faire preuve de pertinence et d'humour et de vous toucher un petit peu si c'est possible. Donc voilà. Alors par exemple, on pourrait parler de ce qui s'est passé le 13 mars dernier. Je sais, ça remonte un petit peu, mais ça m'a quand même beaucoup marqué. La CFDT a ratifié le pacte de responsabilité qui a été proposé officiellement par le gouvernement, mais qui en réalité était passé en sous-main par le MEDEF. Pacte qui après le crédit d'impôt compétitivité emploi prévoit une baisse des charges patronales dont bénéficieront les grands groupes comme d'habitude et qui pour boucler le budget seront rabattus sur la TVA qu'on va payer vous et moi. Ces pauvres petits patrons qui souffrent le martyr, qui tirent la langue, qui roulent en 4L et qui peuvent même plus s'acheter de quoi manger, mis à part Chef Lunch, puisque Chef Lunch et les légumes y sont à volonté, heureusement pour eux. Donc le pacte qui a ratifié la CFDT, ils ont hésité un moment à le faire. Cependant, grâce à un rapport de force des plus violents, ils ont réussi à infléchir la position du gouvernement et du MEDEF. Les contreparties qui ont été obtenues sont dithyrambiques. Donc écoutez bien, ils ont obtenu des discussions au niveau des branches professionnelles en vue d'aboutir à un relevé de conclusions ou des négociations en vue d'aboutir à un accord précisant des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d'emploi. Donc personne n'a rien compris, c'est normal, c'est pour endormir. En gros, ils ont négocié le droit de peut-être avoir le droit de discuter ensuite. de voilà, peut-être on va discuter ce qu'il va y avoir une contrepartie ou non, machin. Donc je sais très bien que ça vous emballe pas tous, mais eux ils ont l'impression d'avoir réussi quelque chose. Après tout, la sodomie c'est une pratique sexuelle assez courante, donc s'ils apprécient le fait de se faire niquer, ils ont tout à fait le droit. Un autre petit truc qui passait dans l'actu qui m'a fait rigoler. En Asie, on a appris dernièrement qu'ils étaient super contents d'avoir eu le droit de manger McDo. Enfin, désormais, ils ont le droit de manger McDo. Ça se situe exactement au Vietnam. C'est depuis le 8 février dernier, donc ça remonte un petit peu, mais ça a quand même fait rire. Donc ce premier fast-food de ce nom vient d'ouvrir. Ça a provoqué des attroupements et on peut le comprendre puisque quoi de plus jouissif que de devenir libre, libre de quoi d'ailleurs, libre d'acheter des hamburgers comme tout le monde, de manger un délicieux et diététique sandwich pour 4 fois son coût réel, qui est composé en gros de ersatz de fromage à base de matières grasses, farine, levure, sel et amidon et autres exhausteurs de goût, de sa salade à l'aspect plastique, de ses tomates OGM jaunes, de sa viande de qualité qui a notamment été épinglée récemment pour des lots provenant de chez Castel. C'est Castel qui fournit la viande de chez Flunch et chez McDo. Ils ont été épinglés plusieurs fois à cause dans leur viande de présence d'anormalement haut taux de matières grasses et de micro-organismes. Chez McDo, il y a aussi ces magnifiques nuggets de poulet qui sont composés de un petit peu tout et surtout un petit peu de poulet, mais pas trop. C'est surtout à base de graisse et d'eau et qui sont lavés à l'ammoniac en plus. Ces boissons à base de sirop de soda qui sont coupées à l'eau, et aussi il y a la politique magnifique et exemplaire de McDo en termes d'emploi. En effet, on se rappelle tous quand on était gamin, on se disait putain, c'est quand que je vais travailler chez McDo, c'est super. Donc voilà, ça m'a un petit peu fait rigoler. Il y a autre chose que je voulais dire, mais sur un ton un petit peu plus sérieux là, c'est que dernièrement on a appris que l'émission de Daniel Mermet sur France Inter était arrêtée, l'émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis. Et ils ont pas été arrêtés, ils ont le terme qui a été utilisé n'est pas reconduite. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, j'espère pour la plupart que vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve ça scandaleux. Non pas parce que je dresse Daniel Mermet en espèce de dieu absolu, mais c'est tout simplement le format qui était cool. Pour moi c'est une catastrophe pour la démocratie. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur cette émission. On peut dire si on veut que ça manquait d'objectivité pour certains, gna gna gna, comme font les journalistes hypocrites, que cette émission était partisane. Ok, on peut le dire si on veut. Que dire que de toutes les autres émissions qui sont prétendument libres, indépendantes et impartiales et qui invitent en permanence les mêmes économistes ou les mêmes journalistes, les mêmes politiques et qui posent toujours ces soi-disant questions pertinentes en les alignant au modèle libéral, c'est pareil. Donc comme dit, il y a une émission qui est prétendument orientée politiquement alors que les autres le sont tout le temps en fait en règle générale. Donc les questions qui sont calquées sur le modèle du genre que faut-il faire puisqu'il y a la dette, ou la grève ça va prendre les gens en otage pendant combien de temps, ou encore la compétitivité de la France elle est trop faible, comment faut faire. Donc voilà, c'est le genre de questions qu'on entend en permanence dans les médias à l'heure actuelle. Ça c'est pas orienté, par contre Daniel Mermet qui fait, lui ça c'est orienté. Cette émission avait au moins le mérite de poser d'autres questions, et ça se passait en plus, cette émission c'était pas non plus de la folie, c'était une heure par jour du lundi au vendredi. Pendant cette année ils avaient arrêté le vendredi au milieu de toutes les banales émissions, c'était pas non plus un scandale. Était-ce si dur à supporter pour la nouvelle direction ? Apparemment oui. Ça les faisait chier de laisser un peu de pluralité sur le service public. En plus, l'émission, le problème, c'était pas l'audimat, puisqu'elle fonctionnait. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres radios nauséabondes, comme Radio Courtoisie, qui ont le droit d'émettre encore et toujours pour dire des conneries. Bref, tout ça pour dire qu'on a besoin de ces gens-là, qu'on peut les soutenir et qu'on doit les soutenir en allant sur le site officiel, par exemple, de l'émission, là-bas, l'adresse c'est là-bas-point.org. Mais surtout que je me fais également aussi beaucoup personnellement de soucis pour un journal comme Le Monde Diplomatique, qui bénéficie d'une tribune, qui bénéficiait du moins, puisqu'il bénéficie plus, d'une tribune une fois par mois sur France Inter grâce à là-bas si j'y suis. Ce journal, Le Monde Diplomatique, qui fait un travail énorme et qui risque également de souffrir de ce manque d'exposition. Donc si vous pensez comme moi qu'il y a besoin de pluralité dans les médias, nous devons de soutenir ces gens-là. Et surtout, merci à l'équipe de là-bas si j'y suis pour toutes ces émissions. Elles nous laissent tout de même de la matière à travailler derrière elles. Donc voilà, c'était une petite remarque au passage. Une autre petite chose qui m'a fait rigoler, je trouvais que c'est quand même assez significatif et que c'est, ça symbolise pas mal de choses. Un petit mot qui ravira nos auditeurs, donc ça concerne la poupée Barbie. Il y en a certains qui la détestent, hein, j'en fais un petit peu partie à certains moments. Il y a une étude qui a été menée dans une université de psychologie américaine, dans l'Oregon, sur un échantillon de 37 filles. On montre que les filles de 4 à 7 ans qui jouent avec cette poupée servile, et quel que soit le modèle de la poupée hein, d'ailleurs, se sentiraient en moyenne 1,5 fois moins capables d'ambition professionnelle que les garçons. Alors que jouer ne serait-ce que 5 minutes avec Madame Patate libérerait leur créativité et leur ferait retrouver des capacités créatrices. Pour résumer, en fait, les filles qui jouent à la Barbie se sentiraient inférieures aux hommes, elles se sentiraient nulles et incapables d'accomplir quoi que ce soit. Et oui, en même temps, si Barbie intello féministe existait, ça se saurait. Peut-être qu'un jour on la verra, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actu. Ce jouet, il ravit toujours les phallocrates. Hein, ils sont fans de ces clichés et des stéréotypes sur les femmes. Et en même temps, en véhiculant ce genre de produit, ils se disent que les filles, eh ben, elles sortiront pas de, les petites filles, elles sortiront pas de leur rôle de boniche, sois belle et tais-toi, quoi. Donc voilà, moi je finis par me demander si cette poupée Barbie elle sert vraiment à grand chose. Donc voilà, et ben il me semble que Alexis est en feu.
Are in distress. The sounds of a case behind us.
Et voilà, ben, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, Les yeux grands ouverts, de petit tremplin qu'on nous a permis de faire pour faire notre petite promo. Donc cette émission sera diffusée tous les dimanches de 23h à minuit. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc on aura différentes thématiques selon les émissions. Alors j'ai quelques petits contacts à vous donner si ça vous intéresse, si éventuellement vous avez des questions ou des envies ou des avis aussi à faire partager. Donc il y a un mail qui a été mis en place pour l'émission. Alors c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, donc les yeux X grands et ouverts avec un S, bien sûr tout attaché, il n'y a pas de tiret ni de point. Et il y a aussi un compte Facebook, enfin une page Facebook qui a été mise en place, c'est pareil, les yeux grands et ouverts avec un S. Donc dimanche, pour la première émission à l'horaire normal, on recevra un sociologue qui écrit en ce moment une thèse sur le sport dans le néolibéralisme, donc qui nous expliquera un peu l'historique du sport, pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et la conséquence qu'il peut avoir sur les gens, les conséquences d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas qu'une, les conséquences qu'il peut avoir sur les gens aujourd'hui. Et puis voilà, et ben j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou même une bonne soirée. Et puis amour et décadence, comme d'habitude. Allez, à plus.